La mêlée de l'info. Une émission de débat sur l'actualité nationale, animée par Éric Dupri.
Bienvenue à l'écoute de Radio Présence pour ce nouveau numéro de la mêlée de l'info. Alors que l'actualité nationale est en pleine effervescence cette semaine, trois invités, comme d'habitude, pour en débattre. Je salue Marie-Christine Monnoyer, professeure des universités, membre de la chaire Jean Rodin à l'Institut catholique de Toulouse. Je salue aussi Pierre Esplugas, professeur de droit public, adjoint au maire de Toulouse, conseiller communautaire de Toulouse Métropole, membre du parti Les Républicains. Et je salue enfin Mohamed Mafri, adjoint au maire de Blagnac, délégué à la culture et à la jeunesse. Bienvenue à tous les trois. Merci d'être fidèles au rendez-vous, sachant que Pierre Esplugas nous rejoindra dans quelques minutes. C'est surtout l'actualité politique qui est en effervescence depuis le début de la semaine. Vous savez tous pourquoi. Lundi, le tribunal de Paris a rendu son verdict dans le procès concernant les assistants parlementaires des députés européens du Rassemblement national. Et il a condamné Marine Le Pen à 4 ans de prison, dont 2 ans ferme aménagé sous bracelet, ainsi qu'à une peine de 5 ans d'inéligibilité avec application immédiate. Si les recours qu'elle va déposer n'aboutissent pas, la présidente du groupe RN à l'Assemblée nationale ne pourra donc pas se présenter à la présidentielle de 2027. Cette décision survient alors que Marine Le Pen est annoncée dans certains sondages récents à 37% d'intention de vote. Et comme on pouvait s'y attendre, cette décision a suscité de vives réactions dans la classe politique, dans les médias et sur les réseaux sociaux. Certains parlant même de séisme politico-judiciaire, même si un procès en appel pourrait avoir lieu d'ici l'été 2026. Pour votre part, est-ce que vous vous attendiez à une condamnation aussi sévère, avec exécution immédiate donc? Et partant de là, comment y réagissez-vous? On écoute d'abord la réponse de Marie-Christine Monnoyer.
Ce qui m'amuse dans ce que vous venez de dire, si on peut parler d'amusement, c'est le fait d'employer le mot séisme. Un séisme, c'est un tremblement de terre. Et même pour les très bons scientifiques, un séisme, c'est très difficile à prévoir. Alors que là, ce n'était pas difficile à prévoir. Le tribunal a donné un avis, un jugement, a émis un jugement après un procès qui dure depuis de nombreuses années.
Les faits remontent à 2016.
Et donc, cela fait gentiment 9 ans. Ça fait 9 ans de procédures qui ont été plusieurs fois repoussées pour de multiples raisons. Et donc, en particulier, les accusés ont largement eu le temps de se préparer. Et donc, ils ont eu le temps d'analyser en détail ce qui leur était reproché, et ils ont pu répondre et ils ont pu se préparer au pire, ce qui, j'en conviens, est le pire qui pouvait leur arriver, ou presque. Donc, le fait d'employer le mot séisme, le fait d'employer le mot « c'est inimaginable » ou « je suis choqué » m'étonne. Parce qu'en fait, peut-être est-ce que parce que je suis professeur de stratégie et que le quotidien, c'est de penser le long terme. J'ai du mal à comprendre pourquoi on n'a pas pensé le long terme et pourquoi est-ce que, étant donné que Mme Le Pen est une avocate, donc elle a étudié le droit, elle n'a pas imaginé tout ce qui pouvait arriver. Pour moi, ça, c'est difficile à comprendre.
Alors, je pense que l'histoire du séisme politico-judiciaire, c'est surtout le fait qu'il y ait eu exécution immédiate. Voilà, ça, on va en discuter. Mais avant, je vais passer la parole à Mohamed Mafri pour avoir, lui, son avis sur ce qui vient de se passer. Est-ce que vous vous attendiez à une condamnation aussi sévère, et notamment à cette exécution immédiate de l'inéligibilité. Alors ça, c'est imprononçable.
L'inéligibilité.
Pour 5 ans.
Bonsoir, Monsieur Dupric. Merci pour votre accueil. Je ne vais pas trop apporter de contradiction à ma collègue de gauche, parce que tout simplement, dans cette situation...
Vous êtes collègue de gauche parce qu'elle est à votre gauche.
Elle est à ma gauche, oui. Les gens sont sur le plateau. Je vous confirme, elle est à ma gauche. Et voilà, il n'y a aucune approche politique de ma part. on marche un peu sur la tête dans cette affaire, parce que tout simplement, Marine Le Pen a été donc condamnée à plusieurs années de prison, dont deux fermes, avec une amende importante et 5 ans d'inéligibilité et une exécution, comme vous le dites, immédiate. Le scandale ici, c'est que tout simplement, une élue, et pas n'importe quelle élue, une élue avocate avec un parcours quand même maintenant très expérimenté, qui prétend aussi à la magistrature suprême, puisse avoir, comme elle indique, alors je vais faire une petite métaphore, c'est pas de l'humour, mais avoir les mains un peu sales quand même, parce que pour une personne qui parle, même propre, même tête haute, et inéligibilité à vie, au moindre casier judiciaire, et avec un détournement de 4 millions d'euros. Ce qui m'ennuie, moi, dans la situation, c'est non seulement ce détournement de l'argent public, mais le scandale aussi, c'est qu'aussi de nombreuses personnes politiques qui estiment qu'en raison de sa popularité, vous l'avez dit en introduction, M. Dupréix, Marine Le Pen pourrait être au-dessus des lois. À titre d'exemple, un chauffeur Uber, si on lui suspend son permis, pendant 6 mois, eh bien, il ne pourra pas conduire, il ne pourra pas avoir bénéficié de son fruit de son travail, malgré un appel, il ne pourra pas disposer de cette autonomie-là. Pour moi, le scandale aussi, c'est que Marine Le Pen n'ait pas eu conscience avec son, encore une fois, j'insiste, son parcours professionnel, son histoire, son parcours professionnel d'avocate, mais professionnel politique aussi, n'ait pas eu aussi cette intuition de réagir et d'anticiper cette situation. 4 millions d'euros détournés pour une affaire quasi familiale, avec des postes d'assistants parlementaires, de collaborateurs parlementaires dont pourrait s'interroger. Alors, si vous me le permettez, ça va être peut-être anecdotique ou humoristique, mais je vais vous citer quand même la liste des personnes qui ont été quand même visées par rapport et non contestées par rapport à ces postes d'assistants collaborateurs parlementaires. La sœur de Marine Le Pen, qui ensuite sera sur une élection législative. La meilleure amie de Marine Le Pen. Le compagnon de Marine Le Pen, Louis Alliot, qui est aussi maire de Perpignan. Maire de Perpignan, collaborateur parlementaire. Je ne fais pas un dessin. La gestion du temps, vous qui parlez de stratégie de temps et de temporalité, voilà, donc ça explique tout. Le majordome de Marine Le Pen, le secrétaire de Jean-Marie Le Pen, le directeur de cabinet de Jean-Marie Le Pen, et pour finir, le garde du corps de Jean-Marie Le Pen. Voilà. Donc avec... bonsoir.
Pierre Esplugas vient d'arriver.
Voilà. Avec tout ce cumul-là, on s'étonne encore une fois comment, avec cette expérience-là, son entourage, le parti du Rassemblement National, quand même, il n'est pas amateur, il dispose d'un service juridique, j'imagine, n'ait pas pu tirer la sonnette d'alarme. Et toutes ces personnes, en plus, qui nient devant le juge que ces postes-là sont quasiment fictifs. Elle est loin d'être stupide, Marine Le Pen. Et d'autant plus qu'on apprend aussi qu'elle est informée aussi, en amont, par son trésorier, les risques de visibilité de ces postes fictifs. Voilà, donc imaginez que ensuite cette personne-là, encore une fois, vise le poste de président de la République. Qu'est-ce que ça aurait pu être ? Voilà, on peut avoir quand même quelques a priori. Voilà. Et je rajouterai aussi que des soutiens internationaux ne lui permettent pas aussi d'avoir une plus-value positive. Hein. Alors là aussi, pareil, je vais lister les noms. Monsieur Poutine, Monsieur Musk, Xi Jinping, Monsieur Bolsonaro. Et je m'arrête là. Hein. Donc voilà, donc c'est pas quand même aussi en termes de plus-value démocratique, c'est pas quand même les meilleurs soutiens. Voilà, donc pour moi, quand même, on souffre tout actuellement de cette image d'homme avec un grand âge, politique malhonnête, corrompu. Et même les sondages, dernièrement, j'ai pu comparer tout, de l'IFOP et autres, et donc de tous différents mouvements de sondage, indiquent clairement que les Français, à plus de 50%, hein, donc,
57% voilà, ne considèrent sont, que considèrent ce que, qui arrive à Marine Le Pen serait normal.
Serait cohérent et sur le fond. Difficilement contestable. Et malgré même qu'elle ait un appel, alors moi je ne suis pas un juriste, mais il n'empêche, c'est qu'elle a un appel et tout ce que j'ai pu vous amener comme élément, je vois difficilement contester cette décision. Et concernant aussi cette communication qu'on entend aussi, que c'est une injustice parce que c'est une candidate appréciée des Français à 37% des sondages, je rappelle que Marine Le Pen a perdu 3 fois. Les élections présidentielles, qu'on a pu l'observer aussi lors des débats des élections présidentielles, 2 fois face à Emmanuel Macron notamment. Bon, elle n'a pas brillé par une expérience et puis une qualité forte. Je ne conteste pas ses qualités, parce qu'elle a de l'expérience, personne ne peut le contester, mais il se trouve qu'elle a perdu quand même 3 fois l'élection présidentielle. Et sur les dernières sur l'Union européenne, ceux qui prétendent aussi que c'est injuste parce que le RN est Moi, je ne suis pas VRP du RN, loin de là, donc je ne vote pas RN, mais il n'empêche que c'est un parti qui a 11 millions d'électeurs, qui a de nombreux élus, et que lors des dernières élections européennes, ils ont fait un score stratosphérique sans avoir à tête de gondole Mme Le Pen. Voilà. Voilà. Est-ce que je prolonge ou...
Non, maintenant, parce que vous évoquiez le fait que vous n'étiez pas juriste. Ben, un juriste, on en a un maintenant, puisque Pierre Esplugas.
Quelle belle tradition.
Est donc arrivé. Bonsoir. Donc, je rappelle un peu la question que j'ai posée. Bon, Marine Le Pen, donc, est condamnée à 4 ans de prison, dont 2 ans ferme aménagés sous bracelet, ainsi donc à cette fameuse peine de 5 ans d'inéligibilité avec application immédiate. Donc, est-ce que vous attendiez une condamnation aussi sévère, la concernant, avec exécution immédiate, donc? Et partant de là, comment y réagissez-vous, notamment en tant que juriste?
Alors, est-ce que je m'y attendais? La réponse est oui, dans le sens où, depuis quelques années déjà, on a vu les juges prendre l'habitude de sanctionner durement des politiques. Je veux dire, en préambule, que... pour éviter tout complotisme, que même si je suis professeur de droit, parce que je l'entends souvent, on peut critiquer une décision de justice. Mon métier consiste précisément à avoir un esprit critique vis-à-vis d'une décision de justice. Donc, je dis cela parce qu'on me renvoie souvent cela lorsque je conteste.
Je l'ai encore fait
à propos du jugement du tribunal administratif sur la 69, où je me suis fait renvoyer dans mes buts par M. Godec, par M. Maurice, pour lesquels je ne respecterai pas l'état de droit. Je ne vois pas en quoi je ne respecterai pas l'état de droit si je suis critique vis-à-vis des juges. Et or, précisément, je suis critique vis-à-vis des juges, au-delà de toute considération partisane, puisque ceux-ci, de mon point de vue, sont en train de prendre leur revanche par rapport aux représentants élus et considèrent qu'ils sont habilités à définir l'intérêt général au même titre que les élus. Et donc, cette dureté, cette excessive sévérité, je vais y revenir par rapport donc ici à Marine Le Pen, mais comme la semaine dernière par rapport à Nicolas Sarkozy, comme par rapport, je sais pas, par rapport à Claude Guéant par exemple, me semble excessive. Pourquoi ? Je crois que quand on est élu, quand on est politique, la ligne rouge à ne pas franchir, ça me semble évidemment l'enrichissement personnel. C'est ça qui est absolument intolérable lorsqu'on est corrompu et lorsque on touche de l'argent pour refaire sa piscine, comme M. Balkany, mais que M. Balkany soit condamné à une peine d'incarcération, ça ne me pose aucune difficulté. La ligne rouge est franchie. Quand cette ligne rouge n'est pas franchie, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas infraction. Il y a bien sûr ici infraction. Ceci étant, condamné, comme c'est le cas, à une peine d'incarcération, quand il n'y a pas enrichissement personnel, je trouve ça, de mon point de vue, un peu excessif. C'est d'autant plus que, pardon, je vais mettre un peu les pieds dans le plat, outre que cette pratique d'attaché parlementaire, de collaborateur de manière générale, qui ne travaillent pas directement pour l'institution pour laquelle ils sont payés, eh bien, je suis désolé. Cette pratique, elle est...
générale, vous voulez dire ?
Oui, elle est générale. Je vous mets au défi de me trouver un directeur de cabinet d'une collectivité publique, qu'elle soit étatique ou territoriale en France, qui, à l'approche d'une élection, dit à son patron qui se présente à l'élection, « Ah non, hein, voilà, je suis collaborateur de la ville X, mais moi, les élections municipales à venir, ça ne me concerne pas, je ne travaille que pour la mairie X. » Bon, je peux vous assurer que ça ne se passe pas comme ça, et ça ne me paraît pas illogique d'ailleurs. Hein. Alors, pardonnez-moi, je ne veux pas trop monopoliser la parole.
Non, mais votre point de vue est très intéressant, surtout qu'il tranche avec les deux premières interventions.
J'ai publié...
Mais je ne suis absolument pas d'accord.
Il se trouve que donc, j'ai publié il y a quelques années un ouvrage qui s'appelle « Faut-il adapter le droit des campagnes électorales ?» Et donc, effectivement, moi, je considère que autant on a mis du temps à... la France est une dernière démocratie, avoir prévu une législation sur le financement des partis politique et des campagnes électorales, puisque grosso modo ça intervient à partir de 1988, et depuis ça s'est durci, et durci de mon point de vue à l'excès, notamment après l'affaire Cahuzac, où le gouvernement de François Hollande a fait adopter une série de lois où effectivement aujourd'hui il y a des mécanismes mais qui pour moi dépassent l'entendement. Le mécanisme de la peine obligatoire d'inéligibilité, le fait que ça soit une peine obligatoire me paraît...
C'est elle-même qui le réclamait. Hein.
Ça me... Une peine obligatoire... Comment ça, qui réclamait une
Marine
peine
Le Pen, veut-il dire.
Elle a tort. Alors, mais elle a tort. Mais
non, mais
mon propos va au-delà de Marine Le Pen. Je suis pas le défenseur de Marine Le Pen.
Si
elle le réclamait, elle a tort. Je peux pas vous dire autre chose. Et donc le fait qu'il y ait des peines obligatoires, des peines d'exécution obligatoires. Immédiate me paraît excessif. Et c'est la raison pour laquelle, et on ne l'a peut-être pas vu, vous voyez, j'étais interrogé par France Culture vendredi après la décision du Conseil constitutionnel, où les journalistes disaient, bon, l'affaire est terminée, ce mécanisme d'exécution provisoire est constitutionnel. Pas tout à fait. Il y avait une réserve d'interprétation qui conduisait à ce que le juge dit de l'inéligibilité, ici le juge pénal, puisse apprécier dans les circonstances de l'espèce cette exécution provisoire. Et donc je pense que c'est vraiment cette réserve d'interprétation du Conseil constitutionnel est tout à fait positive. La journaliste de France Culture m'a répondu, mais ma stagiaire de l'ENM qui travaille avec moi n'est pas d'accord avec vous. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise ? Interrogez la stagiaire de l'ENM et ne m'appelez pas entre mes deux cours. Que voulez-vous que je vous dise ? Et d'ailleurs, c'était d'autant moins une bêtise ce que je racontais, que cette réserve d'interprétation a joué pour Louis Alliot, le maire de Perpignan.
Oui. Qui n'a pas subi cette
exécution provisoire. Voilà, je ne veux pas être trop long, je pourrais continuer mais je ne veux pas monopoliser la parole.
Point de vue, et ce que vous venez de dire est très intéressant, parce que d'autres juristes, et parfois même qui sont issus de la gauche, pensent comme vous, à quelques nuances près. Je voudrais quand même revenir sur ce qu'a dit la présidente du tribunal. Marine Le Pen est donc reconnue coupable et condamnée pour détournement de fonds publics, parce qu'elle a fait prendre en charge par le Parlement européen des personnes qui travaillaient en réalité pour le RN. Et donc Bénédicte de Pertuis, la présidente du tribunal, a déclaré qu'elle a pris en considération, outre le risque de récidive, le trouble majeur à l'ordre public, en l'espèce le fait que soit candidate à l'élection présidentielle une personne déjà condamnée en première instance. Donc la condamnation, on l'a dit, c'est pas forcément ça qui a été critiqué.
C'est faire fi du droit au recours effectif.
Voilà. La peine d'inéligibilité, cette application immédiate, c'est ça qui a vraiment choqué. Et en fait, la question que je vais vous poser à tous les trois, est-ce que vous considérez effectivement qu'il y a risque récidive ? Je vous rappelle que Marine Le Pen n'est plus députée européenne. Ça, c'est la première chose. Et deuxièmement, est-ce que sa candidature en 2027, qui est annoncée, présente, en effet, après ce qui vient de se passer, des risques majeurs de troubles à l'ordre public ? Parce que c'est l'argument qu'a utilisé la présidente du tribunal. Marie-Christine Monnoyer.
Alors, je suis un petit peu déçue que vous soyez passé aussi vite sur ce point-là. Parce qu'en fait, ce que vient de dire mon voisin de gauche...
Oui, vous êtes tous des voisins de gauche, c'est assez curieux.
me paraît une interprétation, et on a tous le droit d'interpréter, qui est quand même un petit peu facile. C'est vrai que stricto sensu, Madame Le Pen n'a pas pu mettre en évidence qu'il y avait un enrichissement personnel. Sauf que, quand on appartient à un parti politique et que on bénéficie d'un certain nombre de financements qui ont été décidés dans le cadre de, vous l'avez rappelé, et à juste titre, si on va au-delà des financements qui sont autorisés en trichant. En fait, c'est l'intégralité...
En détournant des fonds publics.
En détournant des fonds
publics. C'est ce qui lui est reproché.
Voilà. En détournant des fonds publics, quelque part, l'ensemble du parti en bénéficie. Et
c'est la raison pour laquelle il faut condamner le parti, ce qui a d'ailleurs été le cas.
Et tous les membres du parti, et en particulier les dirigeants, en bénéficient aussi. C'est presque un jeu de mots de dire il n'y a pas d'enrichissement personnel, mais en fait je peux avoir un majordome, un ceci, un cela, qui sont payés parce que je détourne les textes.
C'est pas le cas là, c'est pas le cas. Il n'y a pas de majordome. Il n'y a pas de majordome dans ce cas d'espèce. Ce sont des collaborateurs qui bossaient pour le RN au lieu de bosser pour le Parlement européen. Mais si c'est pour en faire un majordome, là, c'est vraiment gênant, c'est l'enrichissement personnel. C'est dans ce cas-là. Mais justement, il n'y a pas d'enrichissement personnel dans cette affaire. Et d'ailleurs, ça a été spécifié dans le jugement.
Ouais, alors, ce que veut dire Marc-Christine Moyer, il me semble,
non, mais
c'est que ça permet
au parti de
on
fait mélanger
des économies sur des salaires.
C'est évident.
C'est le parti qui
le parti fait ainsi des économies sur le salaire. Et enfin, dans toute collectivité, et en particulier dans une entreprise, on sait bien que quand il y a, et même dans une municipalité, quand il y a des moments où on a des avantages fiscaux ou des choses comme ça qui arrivent, des sommes qui arrivent et qui sont même totalement justifiées, ça change complètement l'organisation. Et quand j'entends après que il va être difficile de rembourser alors qu'on connaît exactement maintenant les finances du parti, qui sont extrêmement à l'aise, etc., etc., j'ai du mal à dire, il n'y a pas d'enrichissement. Il y a eu un enrichissement phénoménal du extrêmement important, ne soyons pas trop méchants, ne disons pas phénoménal, mais extrêmement important du parti, qui a modifié complètement sa situation sur le plan de la démocratie française, et ceci, c'est voulu, planifié, organisé, et donc, c'est gravissime. Et je comprends, et je vais vers votre question, est-ce qu'il est envisageable que quelqu'un qui a organisé cela pendant des années puisse se présenter tranquillement à une élection présidentielle en disant « Votez pour moi, je suis quelqu'un de fiable ».
Oui. Non. Alors, l'argument mis en avant par la présidente du tribunal de Paris, Bénédicte de Pertuis, c'est qu'il y a risque majeur de trouble à l'ordre public. Est-ce que c'est le cas selon vous ?
Parce que si c'est ça, c'est le prime aux contre-manifestations.
Oui.
C'est-à-dire que si on dit qu'il y a un risque de trouble à l'ordre public parce qu'il va y avoir des manifestations antifa, ok, très bien, mais c'est le contraire de l'état de droit, jurisprudence Benjamin 1933, qui consiste justement à ce que on autorise une manifestation s'il y a un trouble à l'ordre public. Enfin, pardonnez-moi, on n'autorise pas les manifestations. Voilà, et ça, c'est une prime à la contre-manifestation. C'est pour ça que je trouve ce raisonnement biaisé de la part de la présidente.
Voire fallacieux.
Ce qui m'ennuie, c'est encore une fois, je reprends l'expression l'arroseur arrosé, Marine Le Pen qui depuis des années, et je l'ai dit à l'introduction, hein, les slogans même propre tête haute, inégibilité, avis, et pas qu'elle, hein, les nombreux leaders du Rassemblement National. Et avoir un parti qui fait 11 millions d'électeurs, structuré, avec un service juridique, et de faire découvrir que c'est de tomber dans la victimisation totale, j'ose le dire, c'est du foutage de gueule un petit peu, mais c'est de l'amateurisme aussi. Au moment où en plus elle sait qu'elle est attendue, lorsque des sondages la portent à 37%, et dans le dossier, on s'aperçoit qu'elle est informée et qu'elle ne réagit pas. Alors qu'on a eu les expériences judiciaires précédentes. Monsieur a cité tout à l'heure le cas Cahuzac, mais il y avait Thévenoud avec la phobie administrative, il y avait les Balkany, etc., etc. Donc il y avait cette expérience-là. Donc là, moi, je lui accorde aucune circonstance atténuante, surtout au moment où on a besoin d'éthique dans la culture, dans la politique française. Voilà, ça dépasse l'aspect juridique. Voilà. Quand il y a aussi un autre sujet que j'ai envie d'apporter ce soir, c'est les stratégies politiques. Pour moi, il n'y a rien d'hasardeux que M. Mélenchon vienne sur ce terrain-là, limite
au secours de
Marine Le Pen, en apportant encore une fois d'une stratégie juridique, qui n'est pas du tout une stratégie juridique, c'est une stratégie politique. M. Mélenchon rêve uniquement d'avoir dans son rêve Marine Le Pen au second tour et chercher le barrage républicain pour avoir une seule chance de gagner.
En sa faveur.
En sa faveur, bien évidemment. Voilà. Et pareil, j'étais un peu très surpris, voire déçu de certains aussi républicains qui accordaient des circonstances atténuantes. Alors j'espère que ce n'est pas une stratégie électorale aussi. Mais encore une fois, si vous voulez une stratégie autoritaire face au RN, c'est combattre avec les idées. Voilà. L'idée de l'anti-RN ou l'idée d'essayer de pactiser et de jouer une stratégie de billard à trois bandes, ça ne marchera pas. Voilà. Donc les sujets régaliens, il faudra les récupérer. Moi, je suis un homme de centre-gauche et les sujets qui soient sur les valeurs de la République, soit sur la sécurité, d'autres sujets, n'appartiennent pas au RN. Le RN n'a pas le monopole de ce sujet. Et on l'a vu lorsqu'il y a certaines personnalités politiques qui ont su s'affranchir des appareils politiques, qui ont su s'affranchir du dogmatisme aussi, bénéficier des résultats positifs. Et c'est vers ça qu'il faudra aller.
Mon propos ne porte pas une fois de plus sur Marine Le Pen, mais avec ce type de jugement, une fois de plus, qui se répète, un des effets pervers, me semble-t-il, c'est un coup à décourager beaucoup de gens de faire la politique. Comment aller faire de la politique si vous êtes sûr, tôt ou tard, d'être devant un tribunal? Je pense en l'occurrence à ma collègue Laurence Ribagé, hein, qui a été condamnée à une peine d'inéligibilité avec exécution provisoire, avec au passage, on admet une QPC pour l'élu maoré et on l'a refusé à Laurence Ribagé. Bon, là aussi, appréciation subjective, appréciation dans un cas et appréciation différente dans un autre. Si on veut décourager les gens de faire de la politique, continuons comme ça à leur taper dessus.
Voilà. Après, M. Espluga, c'est 57% des Français au niveau de plusieurs sondages qui approuvent cette décision-là. Donc, quelque part, je ne sens pas un sentiment de découragement.
Non, mais...
Et sur les dernières échéances électorales, on s'est aperçu quand même qu'il y a eu
une
participation massive.
Pour se présenter à l'élection, pour s'engager en politique, d'accord, par rapport à ça.
Alors, j'aurais, ça part d'une autre réaction, je vous laisserai la parole juste après, Marie-Christine Monnoyer, c'est celle d'Alain Jakubowicz, qui est avocat, qui est l'ancien président de la LICRA, qui a toujours été un adversaire du RN, de la famille Le Pen.
Ça a changé, ça.
Pas besoin de le rappeler. Alors peut-être que ça a changé. Alors lui, il dénonce la décision du tribunal parce qu'il y voit une atteinte aux principes fondamentaux de la justice. Pour lui, je le cite, hein, les critères usuels pour une exécution provisoire, comme le risque de récidive ou la dangerosité, ne sont pas clairement réunis et il considère que cela porte atteinte à la présomption d'innocence, même dans un dossier accablant, et que cette situation questionne l'état de droit, et il comprend pourquoi le RN, Marine Le Pen et ses proches parlent d'une décision politique. Est-ce que c'est une décision politique? Et là, on parle de Bénédicte de Pertuis, la présidente du tribunal. Est-ce que c'est une décision politique pour vous, ou pour vous, vous êtes certain que ça n'est pas rentré en ligne de compte?
On a appris rapidement qu'en effet, ce juge avait plutôt un penchant très à gauche, hein, avec des écrits, etc. Bon. Sauf que, encore une fois, dans mon propos introductif, il y a des arguments incontestables. Lorsque vous avez 7, 8 assistants parlementaires à plan fictif, quasi dans le cercle familial en plus de Marine Le Pen, bon, il n'y a pas besoin d'être juriste.
Je crois que sur les faits reprochés, c'est pas, là, encore une fois, la discussion n'est pas là. C'est sur vraiment l'exécution immédiate.
Ah,
je pense qu'il y a la question. Et ça, c'est vraiment la décision de la présidente du tribunal.
Alors qu'une fois de plus, qu'elle avait la porte ouverte laissée par le Conseil constitutionnel depuis vendredi dernier. Et la présidente a souhaité, justement, en réunissant des critères, d'après un avocat, qui sont discutables sur l'exécution provisoire, fatalement, ça jette le trouble sur la décision. On ne peut pas le nier, ça.
Marie-Christine Monnoyer, pour vous, il n'y a pas d'arrière-pensée politique dans cette décision?
Évidemment, je ne dirais pas ça. Parce que comment peut-on être sûr que chacun d'entre nous, quand il prend une position, n'a pas une arrière-pensée politique? À un moment donné, donc je ne répondrai pas en disant « il n'y en a pas, j'en suis sûr ». Non, je ne peux pas dire ça. Ce qui est extrêmement gênant, c'est qu'au fond, puisque maintenant on sait qu'il va y avoir un appel, et un appel dans les temps, pratiquement dans les temps, qui permettent de... Nous verrons bien.
Ça s'est fait dans un second temps, d'ailleurs. Hein. Et
oui.
ça posait aussi des
après
questions.
Après l'intervention du ministre de la Justice.
Parce qu'on pourrait se dire, qu'est-ce que c'est que... Pourquoi est-ce que ça remet en cause la décision de Bénédicte de Pertuis?
Effectivement, on peut se poser...
Est-ce qu'on trouve qu'elle est excessive?
On peut se poser cette question. Et je crois qu'on est tous en droit de se poser cette question. Mais la situation de Mme Le Pen est tellement grave sur ce point-là que... Est-ce qu'il est... envisageable. De la même façon que nous avons tous été, enfin tous, peut-être pas, nombreux à être choqués que le président Trump puisse être élu en ayant été largement condamné par plusieurs tribunaux et qu'ensuite, après, il arrive à faire annuler les autres procès pour que cela n'augmente pas le nombre de procès dans lesquels il a été condamné. Nous
il
ne
était condamné
pas.
Pour des faits autrement plus graves, d'ailleurs, que ce qu'on reproche à Marine Le Pen, en demeurant. C'est pour ça que je parlais en début d'intervention du critère de la gravité en me fondant sur l'enrichissement personnel.
Bon, après, ce qui se passe aux États-Unis, il faut laisser les Américains régler.
Laissons les Américains, mais nous savons
des nôtres. Mais et on en a.
C'est vrai, mais il n'empêche que les hommes et les femmes sont ce qu'ils sont. Quand ils ont été capables pendant de longues années de chercher à tromper la loi. Pourquoi peux-je imaginer qu'ils ne continueront pas alors que, et c'est ce qui est marqué dans le rapport fait par la juge, à aucun moment, elle ne regrette, elle ne dit que, pas du tout. elle considère qu'elle était dans son droit et que même si, que son majordome n'était pas son majordome, que, alors que les personnes qui ont été payées par le Parlement européen n'étaient généralement même pas en position d'effectuer un travail réel pour le Parlement européen. D'accord. Et qu'ils étaient, soyons pas trop méchants, des personnes, des petites mains au service du parti. Tous les partis ont besoin de petites mains, la question ne se pose pas. Mais de là à dire que l'on est attaché parlementaire, il y a une marge. Donc au fond, il y a une tricherie, il y a une faute, elle est marquée au fer rouge sur son front. Est-ce que on peut considérer que eh bien, il n'y a pas de problème, il n'y a pas de risque.
Personne ne dit qu'il n'y a pas de problème. Je pense que la réalité de l'infraction, effectivement, l'infraction est constituée.
Et donc, si on dit le peuple doit juger en votant, moi, je reste assis sur mon siège.
Il y a juste peut-être aussi en droit le principe de proportionnalité de la peine par rapport aux faits. Et c'est le sens du début de mon intervention. Je pense qu'effectivement, il y a eu des emplois fictifs. Et donc, c'est, en ce point de vue-là, c'est une tricherie. Est-ce que pourtant, cette tricherie mérite une peine d'incarcération, une peine d'inéligibilité de 5 ans avec exécution provisoire, au regard du principe de la proportionnalité des peines? J'avoue que j'ai comme un doute.
Bon, la question qui est aussi
c'est
derrière.
Vous, juriste. Oui, et donc,
on a bien compris que vous n'étiez pas d'accord. La question qui est derrière aussi, on entend de plus en plus cette expression, c'est la question du pouvoir des juges en France, que beaucoup de gens maintenant commencent à trouver excessif, qui s'impliquent un peu trop avec des arrière-pensées qui seraient politiques dans leur jugement et que ça pourrait peser sur les processus électoraux. Ben là, ça va être le cas puisqu'elle ne va pas pouvoir se présenter. Est-ce que ça vous inquiète, ça, qu'on parle voilà, d'un pouvoir des juges qui serait excessif en France? Peut-être Pierre Espugaz.
Oui, non, moi, je fais partie de ceux, mais sans être, une fois de plus, je ne veux pas qu'on me taxe de complotiste, hein, qui critique le gouvernement des juges. Pour donner l'exemple de l'autoroute A69, clairement, il y a le choix entre deux choix d'intérêt général. Le choix donc de l'intérêt général écologiste, de la protection de l'environnement, choix éminemment respectable, et le choix de l'intérêt général de préserver la circulation des castrés du sud du Tarn et de pouvoir aller à Toulouse dans des conditions de confort et de rapidité et de sécurité acceptable. Et je suis désolé, dans ce cas de figure, le juge tranche entre deux priorités d'intérêt général. Et si le juge tranche entre deux priorités d'intérêt général, ça me pose une difficulté car ce n'est pas son rôle, pour ne prendre que cet exemple récent dans la région.
Mais après, c'est tout le temps la situation du juge. Il est tout le temps en train de prendre une décision entre deux éléments de priorité. Quand on condamne telle ou telle personne qui a commis une malversation...
Mais ce n'est pas une priorité d'intérêt général dans ce cas-là. Lorsqu'une personne a commis une malversation, il n'y a aucun intérêt général à la malversation. Alors que là, il y a un intérêt général entre la protection de l'environnement et un intérêt général entre l'intérêt des habitants.
Il y a deux points. Effectivement, il y a deux observations d'intérêt général. Il faut bien que quelqu'un décide.
Ah, certainement pas le juge, de mon point de vue en tout cas.
C'est là où l'approche parfois elle peut être subjective. Moi, sur la 69, je vous rejoins. Voilà, on voit une situation ubuesque, même kafkaïenne. Toutes les situations juridiques ont été validées. Le chantier démarre. Sur le fond,
300 millions. 300 millions.
Sur le fond, encore une fois, les manifestants, c'était plutôt des manifestants toulousains, de la métropole toulousaine, qui eux bénéficient des métros, des logistiques de transport, etc. Quand vous allez dans le Tarn, moi j'y vais souvent pour les randos, pour du tourisme. Oui, en effet, il y a une grosse souffrance de logistique de transport et puis même d'approche sociale même. Les infirmiers, les personnes âgées, enfin bon, on pourrait approfondir la soirée, etc. Et là, c'est une injustice. Mais là, c'est une interprétation subjective. C'est pour ça que, bon, sur la première situation de Mme Le Pen, encore une fois, sur le fond, j'ai presque envie de dire, j'insiste, l'incarcération, je nuancerai un peu, mais par contre, le fait qu'elle ne puisse pas se présenter au poste du plus haut de la magistrature, moi, je ne contesterai pas. Parce que, encore une fois, elle a fauté. Voilà. Et gravement, au moment où on cherche de l'éthique, au moment où on cherche dans la
politique. Gravement, je ne suis pas certain, moi.
Oui. Alors, ma question dépasse un peu le cas de Marine Le Pen, c'est cette histoire du pouvoir des juges. Oui. On entend de plus en plus cette expression.
On l'entend d'autant plus quand on n'est pas d'accord.
Est-ce que ça ne vous inquiète pas parce que ça veut dire qu'il y a des gens en France qui pensent que le pouvoir des juges est excessif.
Et il y a des gens qui trouvent qu'il n'est pas assez.
Oui, oui. Bon, alors sans doute. Oui. Mais c'est quand même inquiétant, moi, je trouve, hein, que des gens puissent penser cela. Éric, que les juges ne seraient pas impartiaux.
Éric, pour vous donner un deuxième exemple, vous connaissez tous peut-être, vous avez entendu parler de l'arrêt Bosman et de Jean-Marc Bosman.
Oui.
Jean-Marc Bosman est un footballeur belge qui voulait aller du FC Liège au FC Dunkerque.
Absolument.
La Cour de justice de la Communauté européenne a été saisie et elle a considéré qu'il fallait appliquer de manière intégriste, en tout cas intégrale, mais oui, moi je pense intégriste, le principe de libre circulation des travailleurs en ne reconnaissant pas une spécificité au droit du sport et en France et au football. Bon, à l'arrivée, ça donne quoi? Un marché ultra régulé. Est-ce qu'il appartenait à un juge à Luxembourg de décider de la dérégulation du marché de football et de manière à ce qu'il y ait 11 footballeurs étrangers
dans un championnat étranger?
Moi, je ne suis pas certain. Pouvoir illégitime du juge de ce point de vue-là de décider ce que doit être la régulation d'un sport.
Oui, mais après, quand on constate, et Larry Bosman est un excellent exemple, et je me rappelle l'avoir travaillé avec mes étudiants, quand on trouve qu'il y a eu une interprétation trop grande, le Parlement peut modifier les textes de loi sans beaucoup de difficultés. C'est son rôle aussi.
C'est pas certain dans ce cas de figure, parce que comme c'est fondé sur le principe de libre circulation des travailleurs qui est contenu dans le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, le Parlement n'est pas en mesure comme cela de modifier le principe de libre circulation des travailleurs. Et là, c'est une interprétation d'un juge de ce principe.
On va arrêter là ce débat parce qu'évidemment on pourra le continuer.
On aurait pu comparer avec d'autres pays européens le système de justice.
On le continuera, je pense, sans doute dans les semaines qui viennent parce que ça va être un feuilleton rallonge, je pense. Mais vous parlez de Parlement, Éric Ciotti va faire une proposition de loi en juin pour supprimer l'exécution immédiate. Donc voilà, le Parlement pourra peut-être éventuellement... Je ne pense pas que ce sera voté, mais allez savoir. Je crois qu'on ne mesure pas encore toutes les conséquences et les suites que pourrait avoir cette décision du tribunal de Paris. Donc je rappelle qu'une manifestation est prévue ce dimanche dans la capitale, à l'initiative et à l'appel du Rassemblement national. On va espérer qu'elle se passera dans le calme.
Et une fois de plus, comme ça risque de ne pas se passer dans le calme, ça fera le jeu de Marine Le Pen. C'est-à-dire qu'à partir du moment où on vise, à l'arrivée, on peut avoir Trump.
Ce qui va faire le jeu de Marine Le Pen, c'est surtout l'anti-manifestation
qui radicalise
J'espère qu'elle se passera dans le calme, mais je crains qu'il y ait des heurts. Bon. Pause maintenant dans cette émission. Rendez-vous dans une vingtaine de secondes avec mes trois invités pour notre deuxième débat. Restez bien à l'écoute de Radio Présence. À tout de suite.
La mêlée de l'info, Éric Dupri.
Nous sommes de retour à l'antenne, je suis toujours avec Marie-Christine Monnoyer, Pierre Esplugas et Mohamed Mafri. Il y a eu un autre événement politique ce même lundi 31 mars, puisque les présidents Macron et Tebboune ont eu une discussion téléphonique à l'issue de laquelle ils ont décidé de relancer la relation bilatérale entre la France et l'Algérie. Après des mois de crise et de tensions diplomatiques, cet échange pourrait donner lieu à une reprise de la coopération sécuritaire et migratoire entre ces deux pays. Selon le communiqué commun publié par les deux chefs d'État, vous avez pu en prendre connaissance. Est-ce que vous croyez à un retour d'une relation franco-algérienne apaisée et constructive, et ce, une semaine après la condamnation de l'écrivain Boualem Sansal par la justice algérienne? Mohamed Mafri.
Bon, pour moi, l'escalade a trop duré entre nos deux pays. Il faut que ces deux pays se retrouvent là autour de la table et avec, je dirais, comme préambule... La libération immédiate de Boualem Sansal, ça a trop duré. Écrivain, âgé, malade. Et j'espère, on l'espère tous, sincèrement, une libération immédiate. Et ces différents appels téléphoniques suite à ces situations conflictuelles entre l'épisode des influenceurs, l'épisode de Boualem Sansal, le Sahara occidental, on va l'évoquer, on va développer tout ça, mais la priorité pour moi, c'est bien sûr la libération de Boualem Sansal, et si en effet et le président Tebboune et le président Macron peuvent se rapprocher, quoi que l'on pense de situations parallèles ou historiques, la priorité c'est la libération de Boualem Sansal.
Qui, je le rappelle, est aussi notre compatriote puisqu'il est franco-algérien. Pierre Esplugas.
Non, mais tout cela est très délicat parce que, fatalement, le pouvoir algérien estime que nos interventions sont de l'ingérence et au regard du passé colonial, c'est d'autant plus mal perçu. Et d'ailleurs, on sent bien l'instrumentalisation par le pouvoir politique algérien que si c'est une instrumentalisation des fins de politique intérieure. Toujours pareil, on s'unit toujours contre quelqu'un et c'est assez facile de s'unir contre l'ancienne puissance coloniale. Et en même temps, vous l'avez dit, Eric, c'est un franc algérien, il n'est pas entièrement illogique que le pouvoir politique français intervienne face à une condition scandaleuse pour quelqu'un qui est incarcéré concernant un délit politique, finalement. Donc c'est très délicat. Au-delà de la personne de cet écrivain, je pense qu'il était temps un petit peu d'ouvrir un petit peu la marmite et de se reposer, d'apaiser. Et c'est vrai qu'enfin, cet échange au plus haut niveau de l'État, c'est le premier coup d'arrêt à une escalade et qui était nécessaire. Mais c'est vrai que chacun agit en fonction aussi de considérations de politique intérieure. J'ai envie de dire qu'ils sont légitimes, finalement, de part et d'autre. Et je pense que, malheureusement, on s'en sortira jamais au regard de l'histoire entre ces deux pays, des tensions qui ne manqueront pas de ressurgir à chaque occasion. Je vois mal comment il peut en être autrement.
Surtout tant que le pouvoir en place sera celui qui est issu.
Parce que se faire donner des leçons en même temps, je vais y aller plus de manière politique, se faire donner des leçons par le pouvoir politique algérien qui est tout sauf démocratique, à un moment donné, il faut savoir dire stop aussi.
Oui. Est-ce que vous êtes d'accord avec Mohamed Mafri pour dire que le préalable à toute reprise véritable des relations et même de la coopération franco-algérienne, ça doit être la libération de Boualem Sansal ? Est-ce que c'est pas la peine de discuter tant qu'on n'aura pas eu ça, selon vous ?
Non, mais je n'ai pas de réponse à cette question pour ce qui me concerne. Je ne suis pas ministre de l'Intérieur. Mais à un moment, on ne peut pas tout le temps non plus se faire insulter par le pouvoir politique algérien. Il faut savoir dire stop. Ça, je le pense aussi.
Marie-Hélène Monnoyer.
Ce qui m'impressionne dans cette situation actuelle, c'est que c'est la Xème.
Oui.
Et donc, finalement, on monte, on descend. Enfin, c'est les montagnes russes, nos relations avec l'Algérie. Alors, ça veut dire une chose. Puisqu'on a l'expérience des difficultés relationnelles avec l'Algérie, là aussi, il faudrait savoir un peu anticiper. C'est-à-dire que, et vous l'avez très bien dit tout à l'heure, si à chaque fois qu'il se passe un événement, il s'agit cette fois-ci, parce qu'en fait, ce qui a envenimé toutes les choses, c'est le Sahara occidental.
Oui, bien sûr. Hein. La visite au Maroc d'Emmanuel Macron et sa prise de position sur le Sahara occidental.
Alors, évidemment, à partir du moment où il y avait cette situation-là, qui était potentiellement une situation de crise, est-ce que, quand on est ministre de l'Intérieur, on ne devrait pas être sensible aux conséquences des termes que l'on emploie et qui vont faire bouillir la marmite, qui vont augmenter les difficultés au fil des eaux? Et ça m'impressionne beaucoup. Parce qu'au fond...
Donc c'est la faute de Bruno Retailleau, c'est ce que vous êtes en train de nous dire?
Non, je n'ai pas... Mais je suis bien sûr que M. Bruno Retailleau a une expérience politique suffisamment grande et que, est-ce que ça veut dire qu'il ne sait pas que ça va encore accélérer les choses? Alors, on doit, quand on est responsable politique et au plus haut niveau, savoir mesurer ses propos. C'est difficile, mais c'est important, surtout qu'ensuite, finalement, on se retrouve avec un écrivain qui n'a rien à voir avec le Sahara occidental et qui est emprisonné. Et au fond, c'est la suite logique de l'escalade. Moi, je regrette fondamentalement que cet écrivain soit emprisonné. Et donc, je trouve que c'est, au fond, la libération de
suite
l'écrivain.
Suite logique, vous dites ? L'adjectif me surprend un peu.
Mais c'est une suite. C'est-à-dire qu'il y a un événement de la même façon.
On peut se dire qu'on pouvait l'avoir arrivé. Oui. Logique.
Bah bon. Oui, mais à partir du moment où on est en situation de crise, n'importe quel épiphénomène va être utilisé pour amplifier la situation.
Quand Pierre Esplugas dit qu'on ne peut pas quand même se laisser marcher sur les pieds par l'Algérie en permanence, à un moment, il faut mettre le haut là quand même, non ?
C'est un rapport entre deux pays, oui. il a rajouté aussi.
Oui.
Mais si on reprend un peu l'histoire, ça démarre par le Sahara occidental, d'accord ?
Oui.
Bon, conflit énorme.
Oui, il fallait s'attendre à la réaction de l'Algérie, ça c'est sûr.
Peut-être que la diplomatie commune, là où je vous rejoins, ça n'a peut-être pas essayé de travailler et expliqué, on savait très bien que le gouvernement algérien allait réagir.
Même s'ils avaient été expliqués.
Même si on avait expliqué.
Mais on savait. Les incidents diplomatiques étaient là. D'autant plus que ça a été long.
Oui, sauf que les incidents diplomatiques, ensuite, après, ils se renforcent donc, avec la situation de l'affaire de Bolensansal, y compris aussi des influenceurs aussi. Tout ça se cumule.
Et puis les OQTF qu'il ne veut pas récupérer.
Et les OQTF, mais aussi, et vous le citiez tout à l'heure, Bruno Retailleau, qui lui, quand même, est un habile politicien, parce qu'en parallèle, il est en campagne aussi interne avec les Républicains, et il utilise directement ou indirectement cette situation à son profit. C'est un constat, hein, d'accord ? Ce n'est pas un jugement, c'est un constat. Donc tous ces éléments-là ont fait qu'en effet, la cocotte commence à exploser, et j'ai envie d'être optimiste, moi. Pourquoi je dis ça ? Parce que tout simplement, bon, on voit que déjà, M. Tebboune et M. Macron se parlent.
Oui.
On sent, alors, j'espère ne pas me tromper, je pense qu'il va y avoir, j'ai pas d'informations, je vous rassure, j'espère qu'il y aura une situation positive, puisque les deux ont communiqué, les deux veulent communiquer président par président. Et ensuite, moi, sur le terrain, je vois il y a quand même une diaspora algérienne importante en France, et qui apprécie de vivre en France, et qui vit en France économiquement, qui est bien intégré, comme la diaspora marocaine hein, aussi. Et il n'y a pas de conflit entre la diaspora marocaine et la diaspora algérienne. Donc, ce diplomatique, il y aura un gros travail à faire, et par le ministre des Affaires étrangères, M. Barrot, et le président Macron, ils ont un défi là, à relever pour essayer aussi d'éteindre ces incendies-là, même si, en effet, ben, les deux autorités de pays vont essayer aussi d'avoir un rapport de force sur le volet international. L'Algérie, elle a tout intérêt aussi parce qu'elle a une démographie importante. Je rappelle que c'est plus de 60% de la population
très, très
qui
jeune,
a moins de 25 ans,
très, très jeune, ouais.
qui a aussi des ressources naturelles très importantes. Et dont la France et l'Algérie ont tout intérêt économiquement à fonctionner en couple, hein, parce que aussi, si on prend l'actualité d'aujourd'hui, on voit que le président Trump, lui, va jouer un enjeu international à travers cette taxe douanière, et qu'il y a tout intérêt aussi, stratégiquement et économiquement, à fonctionner ensemble avec cette histoire qui n'est pas encore certes cicatrisée, mais dont on a tout intérêt à positiver.
Alors,
est-ce que ça va nous permettre d'apprendre ? Est-ce que ça va nous permettre d'apprendre ? D'apprendre qu'il est indispensable que les deux pays, qu'il s'agisse de l'Algérie ou de nous-mêmes, mais en particulier de la France, que les relations doivent être menées avec une infime précaution et arrêter de s'envoyer des orions à la figure. C'est pas possible ça.
Il faut que ça soit dans le camp. Hein.
Quand un étudiant vous envoie, une phrase un petit peu violente, vous le professeur, vous ne lui renvoyez pas la même violence dans votre réponse. Eh bien, quelque part, c'est un petit peu la même chose. Ce qui a été vécu par l'Algérie a été tellement douloureux que on ne peut pas s'attendre à ce qu'ils aient une diplomatie fluide et tout à fait régulière par
même
rapport à la France.
Même 60 ans après.
Mais même 60
ans après.
Il faudra
bien que ça s'arrête à un moment donné.
Il faudra que ça s'arrête. Mais 60 ans, c'est pas tellement long.
C'est pas non plus court.
Il y a plusieurs générations qui sont passées.
C'est
vrai.
Regardez l'âge des personnes en question. Le président algérien n'est pas un tout jeune homme.
Non.
Il a vécu...
C'est pas un vieillard non plus.
Non, c'est pas un vieillard non plus. Mais donc, l'Algérie française...
À un moment donné, je suis désolé, les problèmes de l'Algérie, c'est pas les problèmes de M. Macron. Il faudra bien que les Algériens aussi regardent. Le problème, c'est que le pouvoir politique algérien pense que parfois les problèmes de l'Algérie, ce sont les problèmes de M. Macron. Non, à un moment donné, c'est à eux de régler aussi leurs problèmes.
Il y a quelque chose qui a été annoncé, et Mohamed Mafri va répondre en premier à cette question, c'est que la coopération migratoire, hein, qui est centrale aussi dans la crise entre la France et l'Algérie depuis plusieurs semaines, doit aussi, et je cite le communiqué, être immédiatement réinitiée dans une logique de résultat répondant aux préoccupations des deux pays. Est-ce que cette coopération vous semble en effet plus que jamais nécessaire, notamment s'agissant, et je reviens sur la question des OQTF, hein, de la réadmission des ressortissants algériens qui font l'objet d'une OQTF en France. Est-ce que vous faites confiance à l'Algérie pour la mener sans demander de très fortes contreparties? Parce que c'est sans doute ce qui pourrait se passer.
C'est tout ce qu'on,
à partir de là, on va jusqu'où?
Moi, c'est tout ce qu'on peut souhaiter sur cette histoire des OQTF, là, c'est cette application du droit international aussi, tout simplement. Et les Français, d'eux-mêmes aussi, lorsqu'ils auront des OQTF aussi, devront aussi récupérer leur OQTF, quel qu'il soit dans les pays du monde. Donc, cette situation-là, j'espère qu'elle sera approfondie, parce qu'encore une fois, il y a un effet domino dans cette affaire. Il y a un effet, je disais l'expression de la bière à trois mondes, mais j'expliquais, toi, que la diaspora algérienne, elle est dans son ensemble parfaitement intégrée. Et vous trouverez dans tous les corps de métier des personnes issues d'immigration comme moi d'ailleurs, ou algériens aussi, avec la double nationalité ou pas, qui sont parfaitement intégrés, qui ne posent aucun problème. Et donc, dans ces situations-là, pour éviter ce côté de généralisation, en fait, voilà.
Bien sûr.
Voilà, qui est terrible. Il y a nécessité aussi, encore une fois, d'appliquer le droit. Tout simplement.
Oui. Pierre Plugas, vous pensez que l'Algérie va effectivement accepter maintenant de reprendre ses OQTF sans en faire un peu à chaque fois des casus belli quasiment?
Je le redis, le pouvoir politique algérien obéit à des considérations de politique intérieure et se sert de ses relations avec la France pour instrumentaliser cela à des fins de politique intérieure. Donc non, je n'y crois pas.
Christine Monnoyer, vous êtes...
Écoutez, moi, je souhaite...
Optimiste ou pas?
En fait, j'ai envie d'être optimiste. J'ai envie d'être optimiste parce que si je suis parfaitement d'accord sur le fait que le gouvernement algérien utilise pour des considérations intérieures, c'est évident. Il n'empêche que il faut que les relations ne pourront être harmonisées. On pourra dire que 60 ans, c'est suffisant, si et seulement si on peut faire en sorte que les OQTF puissent être réalisées convenablement.
Oui, je pense que c'est une question qui est autre. Oui,
je, 60 ans, en fait, l'histoire. Moi, je rejoins Pérez Plugas. C'est vrai que bon, on va pas non plus éternellement parler de l'indépendance. Et voilà, il faut qu'aussi les futures générations algériennes
se prennent en main aussi.
Voilà. Mais on s'aperçoit aussi la réalité aussi. Et là, si vous prenez la condition des Noirs américains,
oui.
C'est ça va au-delà de 60 ans. Donc voilà. Donc je pense qu'à mon avis, c'est pas du laxisme que j'avance. Hein. C'est en effet, il faut que cette jeunesse algérienne, je rappelle, plus de 60% de moins de 25 ans, et c'est au gouvernement algérien d'apporter de l'espoir. Il peut y avoir de l'espoir, c'est un pays très riche. Si on parle de l'économie, c'est un pays qui doit c'est développer son tourisme.
Il y a une partie de la côte
qui reste
désertée, qui ne le développe pas, mais qui pourrait le développer et qui pourrait avoir.
C'est le problème du gouvernement algérien lui-même.
Mais
hein.
Il a des perspectives à lui de s'en saisir. Voilà.
Des Noirs américains, mais oui. Ça c'est quelque chose d'interne. Hein. On ne parle pas de deux pays séparés.
Tout à fait.
On parle de pays qui, jusqu'à preuve du contraire, aujourd'hui, sont totalement séparés. Mmh. Et depuis 60 ans. Mmh. Donc, bon. Ça c'est encore une affaire à suivre. Il nous reste un tout petit peu de temps pour vos coups de gueule ou coups de cœur du moment, du jour. Bah, tiens, Pierre Esplugas, vous avez bien sans doute un coup de cœur ou un coup de gueule.
Alors, je ne sais pas s'il faut en rire ou en pleurer, mais j'ai envie de prendre la proposition du candidat à la mairie de Toulouse, François Piquebal, qui veut créer des centres de désintoxication contre la masculinité toxique. Je crois que la meilleure réponse a été celle faite par Joël Carreras, qui est un élu, ancien élu de gauche au conseil municipal, qui relevait que, ah bon, des centres de rééducation manquaient plus que ça. Et c'est un peu ça.
Hein, le terme est un peu connoté.
C'est un peu ça. On se croirait revenu à l'époque du grand bond en avant de Mao Tse-tung avec les camps de rééducation. En moins, tout simplement, que M. Piquebal n'ait trop vu la célèbre et ironique série télévisée sur Netflix, Machos Alphas.
C'était le coup de gueule humoristique, je dois dire, de Pierre Esplugas.
Je ne le connaissais pas et je suis très impressionnée. Mon coup de cœur est lié à quelques petits événements américains, comme l'élection d'une juge dans le Wisconsin, et puis de certaines décisions qui sont prises par des juges américains. Est-ce que c'est le pouvoir des juges? Je ne sais pas. Mais toujours est-il qu'il y a une volonté de manifester par rapport à certaines décisions nord-américaines qui me fait plaisir.
Bon, alors voilà, un coup de cœur, c'est bien, on n'en a pas toujours, c'est plus souvent des coups de gueule. Alors vous, moi-même,
vous allez avoir un coup de cœur, vous allez avoir un deuxième ce soir, ou série du prix, vous allez être content ce soir.
Ah, je suis très heureux, alors moi, j'attends quand même de voir de quoi il s'agit.
Monsieur Spugas donc, est resté sur la vie de Toulouse, moi je vais rester sur la vie de Blagnac, parce que tout simplement, sur le côté sportif, honneur aux filles du rugby, du BCR de rugby Blagnac, qui pour la 10e fois seront en demi-finale du championnat de France. Voilà. Donc là, voilà, petit clin d'œil à Audrey Abadi, la demi d'ouverture, à Laurent Tranier, l'entraîneur, qui fait un super boulot depuis de nombreuses années. Donc elles seront en demi-finale, voilà, peut-être contre le Stade Toulousain, voilà, sûrement même, je dirais, parce qu'elles sont deuxième, le Stade Toulousain est quatrième. Donc on aura probablement derby,
là,
PCR rugby féminin, Stade Toulousain.
Sanglant, voilà. Je plaisante.
D'ailleurs, moi qui fréquente souvent les matchs de rugby et le mid rugby, c'est une vraie évolution en cours de ces 5-10 dernières années. Oui. Aujourd'hui, le nombre de femmes dans un stade de rugby pour regarder, c'est du 40%. Hein. C'est pas du 50-50, c'est pas du 1/3, 2/3. Non, c'est du 60-40, 60% d'hommes et 40% de femmes. Ouais. C'est frappant l'évolution du rugby qui touche aujourd'hui le public féminin.
Oui. Moi qui étais responsable d'un master sport, management du sport à l'université Toulouse Capitole, je ne peux que me réjouir profondément parce que je l'ai vu, quand je dirigeais ce master, je l'ai vu se pointer ce développement du rugby féminin.
Et les filles du rugby club blagnacais sont des grosses pourvoyeuses de l'équipe de France.
Fournisseuses numéro 1 de l'équipe de France.
Qui joue actuellement le tournoi des
Six
Nations féminin. Voilà, bon, on attendra la grande finale contre les Anglais, parce que c'est là que ça va jouer. Eh bien, 89e mêlée de l'info est terminée. Merci à tous les trois d'y avoir participé. Je remercie aussi Coraline Camebra qui a réalisé ce numéro, toujours avec beaucoup d'efficacité. Le podcast est disponible et téléchargeable dès maintenant, comme d'habitude, sur le site de Radio Présence. Et merci enfin à vous tous qui nous avez encore écoutés fidèlement aujourd'hui. À la semaine prochaine.